Bonjour à tous, merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Dans un instant, retour sur les temps forts de la semaine avec le duel et puis le débat. Que reste-t-il du mouvement MeToo ? C'était il y a 4 ans le début d'un mouvement planétaire, un hashtag qui voulait dire à la fois une révolte et la solidarité. Moi aussi, une forme de libération et pour beaucoup, l'espoir enfin d'une nouvelle révolution féministe. Et si c'était au contraire le signe d'un malaise dans le féminisme, et je mets l'expression entre guillemets, et s'il y avait eu un mirage MeToo, c'est le titre d'un livre qui vient de paraître au Cherche Midi et qui va faire débat. L'autrice est philosophe et psychanalyste, elle se revendique féministe. Sabine Procoris va jusqu'à écrire qu'encore plus qu'une illusion, MeToo ressemble, je la cite, à une manière de terrorisme intellectuel. Alors impossible de faire la liste de toutes ses cibles, l'actrice Adèle Haenel, de nombreux journalistes et de journaux, à commencer par Mediapart. Et puisque Sabine Procoris s'écrit dans son livre que ce débat est interdit, nous avons décidé de l'ouvrir ici sur France Inter dans le grand face-à-face.
France Inter. Le grand face-à-face, Ali Badou.
Le duel Polony-Finkelstein, la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Salut les amis.
Bonjour.
Vous avez regardé le match de foot, le président de la République qui marque un but de l'intérieur du pied.
Sur pénalty.
Sur pénalty. Mais ça n'enlève rien au talent. Vous avez été admiratif, Gilles, de cette opération de com-Paul.
No comment.
No comment. Pourquoi pas?
Non, je trouvais que le penalty était pas très bien tiré.
En tout cas, à la troisième mi-temps, ils ont chanté « I will survive » à l'Elysée, ce qui est peut-être un signe. Et pour commencer, justement, le président de la République, cette fois de manière plus solennelle.
L'objectif numéro un, c'est faire émerger en France, d'ici 2030, des réacteurs nucléaires de petite taille, innovants, avec une meilleure gestion des déchets. Parce que le premier sujet, c'est la production de l'énergie. Pour produire de l'énergie, en particulier de l'électricité, nous avons une chance, c'est notre modèle historique, le parc installé de nucléaire. Nous devons réinvestir pour être à la pointe de l'innovation de rupture dans ce secteur. Deuxième objectif, devenir le leader de l'hydrogène vert en 2030.
C'était donc Emmanuel Macron mardi qui présentait le plan France 2030, un plan pour imaginer la France dans les années qui viennent, modernisation, innovation, compétitivité, transition écologique et énergétique. Qu'en avez-vous pensé, Gilles, de ce plan qui se déclinera en 30 milliards d'euros investis sur 5 ans dans une dizaine d'objets du quotidien, comme disait le président de la République?
On peut en faire, et ça a été beaucoup fait, une analyse économique, et on pourra y revenir. En fait, je voudrais commencer plutôt par une analyse politique de ces annonces. On voit comment, sur la question de l'énergie, il y a une stratégie de positionnement un peu sur le mode de ce qu'il avait fait en 2017, où il était et de gauche et de droite. Là, il est et pro-nucléaire et pro-énergie renouvelable entre les candidats écologistes qui sont censés n'être que l'un ou les candidats de droite qui sont censés n'être que l'autre. Et donc, sur un sujet qui sera un sujet important de la campagne, je crois que c'est un positionnement qui est intéressant. Deuxième chose, je crois que ça participe d'un discours sur la France, dont je dis maintenant depuis des mois qu'il va être le sujet de cette campagne pour Emmanuel Macron, qu'il avait commencé dans Zadig, et on voit peu à peu s'agencer les pièces du puzzle, d'une France de deux récits concurrents. La France ouverte contre la France du repli, la France optimiste contre la France pessimiste, la France du progrès contre la France de la réaction, et là, la France de l'avenir, la France qui prépare l'avenir contre la France qui ressasse le passé, la France de Macron contre la France de Zemmour. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et puis, dernier point, je trouve que avec ce plan, on voit comment le président de la République cherche à résoudre le dilemme classique du président candidat. Il ne va pas être, ou il ne va pas être principalement sur une rupture entre le président et le quinquennat, parce qu'il sait que quoi qu'il dise, quoi qu'il propose, on lui dira pourquoi ne l'as-tu pas fait. Et donc on voit qu'il va choisir la continuité et il jette un pont, non seulement entre son premier et son deuxième mandat, mais même au-delà, puisqu'on est
éventuel en deuxième mandat.
Bien sûr, puisqu'on est même jusqu'en 2030. Et il use pour cela de ce qui est sa singularité. Il est président de la République, et donc sa parole est performative. Là où les autres vont parler, eh bien lui, il montre qu'il agit.
Natacha.
Alors, Gilles a prononcé un mot qui me surprend un peu, qui est le mot de
continuité, parce que pour ma part, quand quelqu'un fait son chemin de Damas et que ça va dans le bon sens, j'évite évidemment de jeter la pierre aux nouveaux convertis, mais je trouve ça quand même assez sympathique de constater cette conversion. C'est-à-dire que nous avons quand même là un président qui nous explique qu'il va falloir investir sur des secteurs stratégiques, le nucléaire sur lequel il avait entretenu un flou absolu, l'exploration des fonds marins. Alors je rappelle juste que ce président, c'est celui qui a vendu Alstom, c'est celui qui a vendu Technip, c'est-à-dire qui a fait partir aux États-Unis les turbines Arabelle, et Technip, je le rappelle, est spécialisé dans l'exploration des fonds marins. Donc il y a quand même un petit paradoxe. Alors c'est très bien, c'est formidable. Emmanuel Macron a compris l'intérêt de mener une politique industrielle, ce qui n'était absolument pas le cas au début de son mandat, où il était pétri de cette idéologie de la main invisible du marché qui allait par miracle régler tous les problèmes et l'État devait s'effacer devant cela. Donc tant mieux, il le fait. Après, la question est de savoir pourquoi il fait cela maintenant, ça Gilles l'a très bien expliqué, et comment il compte mettre en œuvre tout cela. 30 milliards d'euros pour 2030. Bon, on peut peut-être rappeler que c'est son plus petit plan d'investissement. En 2018, le plan quinquennal, c'était 57 milliards. 30 milliards d'euros, donc, pour préparer la France de 2030, ça équivaut à 30 milliards à une demi-journée du PIB français. Donc, c'est peut-être un petit peu léger pour réellement bâtir l'avenir. De ce point de vue-là, on ne va pas lui jeter la pierre. Il n'a pas forcément la marge de manœuvre, mais c'est là où ça devient assez intéressant. C'est-à-dire que pendant tout le discours, il mêle, comme il le fait à chaque fois, souveraineté française et souveraineté européenne, sans jamais expliciter la façon dont les deux vont s'articuler. L'Europe est surindustrialisée globalement, parce qu'il y a l'Allemagne, parce qu'il y a les Pays-Bas, l'Autriche. La France est sous-industrialisée. Ce décalage, il ne l'évoque jamais. Donc il y a des points aveugles dans ce plan qui révèlent assez en fait le parcours d'Emmanuel Macron.
Gilles Damo.
Oui, Damo. Natacha parle de, enfin, évoque en tout cas ce qui serait une rupture, qui est à la fois de la répétition, puisque c'est le troisième plan d'investissement, notamment après le gros plan qui avait déjà été annoncé il y a deux ans, et il est en même temps sur certains choix, et c'est vrai notamment sur l'énergie, tardif, parce que ça fait maintenant des années qu'on attend les choix stratégiques, et en réalité, ils ne sont pas encore faits. Alors on attend, il y aura dans quelques jours maintenant un rapport très important de RTE sur les scénarios énergétiques, et je pense que derrière, il y aura des décisions, mais c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de retard. Reste à savoir comment tout cela va se mettre en œuvre. C'est toujours une question d'exécution, d'articulation entre les dépenses publiques et les dépenses privées, et puis c'est le propre de tout investissement, d'aléa, parce que quand on investit, quand on fait des choix comme ça, il y aura des échecs.
Est-ce que vous reprenez, Natacha, l'opposition que le président de la République formulait, d'après Gilles, entre décliniste et progressiste? Est-ce qu'il installe comme ça la prochaine campagne présidentielle?
Il me semble que l'analyse que j'ai faite consiste à pulvériser ce qui est un artifice de communication, dans la mesure où la question n'est pas de savoir si on est progressiste ou décliniste, mais la question est de savoir si on a une vision cohérente. J'ai oublié dans ma liste des légères erreurs d'Emmanuel Macron, qui jusqu'à présent n'était pas si progressiste visiblement et n'avait pas bien compris qu'il fallait se tourner vers l'avenir et donc prévoir la France de 2030. Il y a eu Alstom, il y a eu Technip. Là, pour faire le service après-vente de la présentation du président, Agnès Pannier-Runacher a expliqué donc que sur le nucléaire, il allait y falloir mettre en œuvre des projets permettant de recycler les déchets. Elle venait de réinventer le projet Astrid qu'Emmanuel Macron à supprimer. Donc on cherche en fait la cohérence à l'échelle du quinquennat. Donc c'est très bien, moi je suis pour qu'on regarde vers l'avenir et qu'on considère que la France a des atouts, ça fait des années que je pense cela. Encore faut-il, quand on a les clés en main, ne pas torpiller ses atouts. Alors après, on se rend compte qu'on a commis une erreur, n'est-il pas un peu tard?
Le duel continue.
Le grand face-à-face. Le duel.
Nous sommes là pour protéger le peuple polonais qui a décidé lui-même et souverain. à l'occasion d'un référendum, de rejoindre l'Europe. Personne ne force personne à rejoindre l'Europe. En sachant que rejoindre l'Europe, ça veut dire accepter que la Cour européenne de Luxembourg prime sur les cours nationales. Ceci est fait pour protéger le peuple dans des cas où précisément un gouvernement qui irait contre les valeurs qu'a voulu le peuple polonais lorsqu'il a rejoint l'Europe, eh bien, ne puisse être la victime.
C'était Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur. Il était à l'antenne de France Inter. Des mots fermes en pleine crise entre la Pologne et l'Union européenne. La Pologne qui déciderait que le droit de l'UE ne primerait plus sur sa constitution, et une décision qui pourrait aller, selon certains, jusqu'à un Polexit, comme on parlait de Brexit. Ce qui est assez fort, c'est de voir aussi que cette situation oblige les candidats ou les pré-candidats à la présidentielle à se positionner en France. Xavier Bertrand, Michel Barnier, Marine Le Pen, Valérie Pécresse également ont contesté la primauté du droit européen après la décision prise par la Pologne. Natacha ?
Cette interview de Thierry Breton était totalement surréaliste, mais totalement, dans les déclarations qu'il a faites, parce que par la suite, il a expliqué que quand un pays fait partie de l'Union européenne, il en a accepté les règles. Si on veut les changer, il faut en sortir, il suffit de faire un référendum. Alors, on va peut-être préciser deux, trois choses. Le PiS, le parti réactionnaire au pouvoir en Pologne, n'est pas franchement un modèle de démocratie. On peut même profondément s'inquiéter de la dérive de ce parti, notamment en ce qui concerne les droits de la presse et l'organisation du système judiciaire. Ça, c'est un préalable. Pour autant, les Polonais ne veulent certainement pas quitter l'Union européenne, pas du tout, ni le peuple polonais, ni leurs gouvernants. Ce n'est absolument pas le problème. En revanche, la Cour constitutionnelle polonaise, pour servir les positions du gouvernement, a décidé de rappeler que le droit européen ne s'impose pas dans toutes circonstances.
Qu'une partie des traités européens sont incompatibles avec la constitution polonaise.
Quand les traités sont incompatibles, il y a discussion. Ce que la Cour allemande, la Cour de Karlsruhe, rappelle régulièrement. Encore une fois, c'est un débat fondamental et qui nous concerne tous. Mais quand Thierry Breton, se faisant d'ailleurs le porte-voix de la Commission européenne, etc., explique, quand il explique qu'en gros, il n'y a le choix qu'entre se soumettre et se démettre, c'est-à-dire accepter les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne ou sortir de l'Union européenne, mais en effet, ça signifie que ce qu'une génération a fait, la génération suivante ne peut pas le défaire. Ce qui est le contraire de la démocratie. C'est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme qu'une génération ne peut pas entraver les générations suivantes. Donc tout doit pouvoir être débattu, les traités européens doivent pouvoir l'être, et ensuite dans l'articulation des normes, il faut tout de même rappeler que le fondement d'une constitution, c'est la loi fondamentale, la constitution. Elle est votée par le peuple. Donc, la construction européenne s'est faite différemment, de façon assez complexe, mais c'est d'ailleurs pour ça que quand il y a eu un traité constitutionnel, certains ont pensé qu'il fallait le soumettre au peuple. Il a dit non.
Alors, je prendrai pas les choses exactement de la même manière, mais ça ne vous étonnera pas. Je crois, d'abord, il y a une question polonaise qui pose une question sur la nature même de l'Union européenne. L'Europe est à la fois un marché, un grand marché, liberté de circulation et pour un certain nombre de pays une monnaie commune et une communauté de valeurs avec une charte des droits et un certain nombre de principes d'indépendance de la justice, de liberté de la presse, de bannissement de la peine de mort et d'autres. C'est un problème ancien au sens où, depuis de nombreuses années, il y a une asymétrie avec une fermeté sur le non-respect des règles de liberté de circulation, parce que avec y compris des sanctions financières pour les États, et une sorte de faiblesse sur le non-respect des valeurs fondamentales, parce qu'il y a peu d'outils pour le faire. C'est une question qui avait déjà été posée lorsque l'extrême droite était arrivée en Autriche, et qui est reposée non pas par le peuple polonais qui est pro-européen, mais par ce gouvernement polonais qui est fondamentalement anti-européen, avec des violations répétées, des violations théorisée de l'état de droit, des principes de la démocratie libérale et des règles, là-dessus, Thierry Breton a raison, des règles auxquelles la Pologne a adhéré en arrivant dans l'Union européenne.
Le 1er mai 2004.
Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que non pas les institutions communautaires, mais les États membres ont réagi en disant « ça suffit » et en conditionnant le versement du fonds de relance au respect de l'état de droit. C'est ça l'origine du problème. On en avait débattu ici, Natacha avait accueilli avec un certain scepticisme cette décision. On voit qu'elle est appliquée avec volontarisme. Ça a été relativement efficace puisque, par exemple, sur les villes LGBT-free en Pologne, il y a eu un début de marche arrière. Ce n'est pas idéal comme moyen de pression, mais on est dans un bras de fer avec la Pologne et on est dans un bras de fer d'autant plus que, en l'espèce, le tribunal constitutionnel polonais n'a pas contesté une directive ou une décision de la Cour de justice, mais le traité lui-même auquel la Pologne a adhéré. Donc, on est dans un bras de fer et que je crois qu'il faut accepter de le poursuivre.
Oui, mais Gilles, vous ne répondez pas à cette dimension du problème que j'ai soulevé, à savoir la question de la hiérarchie des normes. En fait, l'Union européenne s'est construite, et nous allons le payer finalement, nous sommes en train de le payer, et c'est bien dommage, sur un non-dit sur cette question de la hiérarchie des normes. C'est-à-dire que à partir de 1964, en fait, c'est en 1964 que la Cour de justice de l'Union européenne, par un arrêt qui s'appelle l'arrêt Costa contre Enel, les juges écrivent dans cet arrêt que le droit européen prévaut sur le droit des pays membres. Ce sont les juges qui le disent. Ça n'a pas été négocié avant par les pays membres au moment où les représentants des peuples décidaient d'adhérer. Les juristes les moins eurosceptiques appellent ça un putsch juridique. Il a ensuite été petit à petit validé par la pratique et notamment par le Conseil constitutionnel français, etc. Mais c'est tout de même un problème majeur, c'est-à-dire que personne à aucun moment n'ont donné mandat à leurs représentants de décider que la Constitution n'était plus la loi fondamentale, celle qui s'imposait par-dessus les autres normes. C'est un problème qu'il faut résoudre, il faut le mettre sur la table.
Gilles Finkelstein, avant de revenir à la campagne présidentielle française.
Oui, je crois que ce débat à cette partie-là, mais qui pour moi est largement une apparence qui est celui de la souveraineté nationale. Non pas la souveraineté nationale, hein, mais ce débat. Pourquoi une apparence ? Parce que, d'abord, dans la plupart des domaines, contrairement à un mythe couramment entretenu, le droit européen n'existe pas et donc c'est le droit national qui s'applique. Mais là où le droit européen existe, d'abord, notre Constitution elle-même, on n'attend pas un arrêt de la Cour de justice de 1964 ou des décisions du Conseil d'État ou du Conseil constitutionnel. Notre Constitution gaulienne elle-même reconnaît la supériorité des traités sur les lois. Il ne peut pas y avoir d'Union européenne s'il n'y a pas un respect de cette hiérarchie des normes, parce que si chacun peut déroger aux règles qui ont été aux règles qui ont été communément admise, votée, l'Union européenne se défère.
Il peut y avoir évidemment Gilles, en 2020, la cour de Karlsruhe, on en avait débattu ici, a rappelé que dans certains domaines, le droit européen ne prévaut pas sur la Constitution allemande.
Vous avez raison, la Cour constitutionnelle allemande, le tribunal constitutionnel l'a fait, avec aucun effet. Ils ont demandé à la BCE de venir chez eux. Il ne s'est rien passé, et donc
c'est pas sans effet. Alors les Allemands de la même manière que les Polonais.
Alors que c'est l'Allemagne.
Le duel continue.
Le grand face-à-face. Le duel.
Pourquoi Horizon ? Parce qu'il faut, pour faire bien, voir loin. La réélection du président de la République, elle passera par l'élargissement de sa base électorale. Et probablement par l'élargissement de la représentation de cette base électorale.
Je participerai à ce congrès. Parce que ce congrès, c'est la seule façon d'avoir le plus vite possible un seul candidat de la droite et du centre. J'ai deux certitudes. Divisé, on est sûr de perdre. Rassemblé, on peut gagner. Et je veux gagner.
C'est la suite du feuilleton à droite qui passionne notamment Natacha Polony. Ai-je découvert cette semaine, en l'occurrence, il y a eu Édouard Philippe. J'exagère, Natacha, mais j'exagère votre passion, mais Édouard Philippe était sur une scène de sa ville du Havre samedi dernier devant 3000 personnes pour lancer son nouveau parti politique Horizon au pluriel. Et cette semaine, lundi, Xavier Bertrand acceptait finalement de rentrer dans le rang et de participer au congrès de son parti, les Républicains, congrès qui doit désigner le futur candidat de la droite à l'élection présidentielle. Gilles, est-ce que c'est de nature à remobiliser la famille de droite qui semblait largement dispersée, éparpillée ces derniers mois ?
En tout cas, on a eu deux événements qui sont des événements importants.
Pour ceux qui n'ont pas l'image, Natacha se moque de ma question.
À l'échelle de la droite, on peut les analyser séparément. Xavier Bertrand était face à un dilemme. Soit il se soumettait au vote du Congrès au risque de renier sa parole, soit il refusait de s'y soumettre au risque de la division de son camp. Il a considéré que l'un des deux risques était plus important que l'autre. Le paradoxe, c'est qu'il n'a jamais été aussi bien placé. Pour la première fois, il y a eu un sondage où il était au deuxième tour, puisque le seuil de qualification pour le deuxième tour abaissé, et il n'a jamais été aussi menacé pour être candidat, puisque se soumettant à ce congrès, nul ne sait ce qui va en sortir, et nul ne sait quel va être le poids relatif des sondages et des rancunes. Et donc, Xavier Bertrand, qui a quitté les Républicains avec fracas il y a 4 ans, va-t-il survivre à ce choix-là? Et puis, de l'autre côté, si on regarde ce qui s'est passé avec Édouard Philippe, je crois qu'on peut décrypter son choix à comment contribuer à la réélection d'Emmanuel Macron en 2022 en préparant dans le même temps Édouard Philippe 2027. Et il aurait pu choisir de d'aller à La République En Marche et d'en prendre la tête le lendemain. Il a choisi de créer sa propre formation. Et si on met, je termine juste d'un mot, ces deux événements ensemble, en fait, ça montre comment, une nouvelle fois, le cœur de cette pré-campagne se fait autour des Républicains, autour des électeurs des Républicains qui sont la cible principale. La question, c'est est-ce que ce sont les forces centrifuges ou les forces centripètes qui vont l'emporter? Les forces centrifuges, eh bien, ça veut dire que c'est plutôt Édouard Philippe. Les forces centripètes, ça veut dire que ça se rassemble autour de Xavier Bertrand.
Natacha Polony.
Alors, il y a d'abord une dimension totalement gaguesque à voir Xavier Bertrand tenir le discours rigoureusement inverse de celui qu'il tenait quelques jours auparavant. C'est-à-dire que là, on assiste quand même à une performance, parce que avaler un chapeau aussi énorme avec le sourire, c'est magique. Mais dans la mesure où, on est bien d'accord que Xavier Bertrand, qui nous a expliqué la rencontre d'un homme et du peuple, etc., dans le grand lyrisme gaullien, est obligé de se soumettre à une primaire. Voilà, ça s'appelle une primaire, il a tout fait pour l'éviter, il n'a pas réussi. Le plus drôle étant que Valérie Pécresse vient d'adhérer à nouveau aux Républicains pour pouvoir voter pour elle-même, alors que Xavier Bertrand, lui, ne pourra même pas, enfin tout ça ne ressemble plus à rien, puisque c'est le résultat d'un élément, et un élément essentiel, à savoir que, alors que les électeurs de droite sont persuadés, quand vous les interrogez, qu'il y a un boulevard pour la droite, que la France est à droite, et que donc c'est le moment de reprendre le pouvoir, eh bien, en fait, pas un seul des représentants de ce courant-là n'arrive à présenter un projet, une figure et même un charisme qui plie le match, pas du tout. D'autant plus que, et c'est là la suite de l'analyse, en effet, il y a de chaque côté deux forces qui sont en train de manger tout cet électorat de droite, Éric Zemmour d'un côté, Édouard Philippe de l'autre, pour le compte d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que les Républicains sont en train de se faire dépecer. Peut-être qu'ils s'en sortiront à la fin, peut-être qu'émergera de cette primaire congrès quelqu'un qui réussira à un moment donné à inverser la tendance, mais de fait, on ne voit pas bien selon quelle idée géniale, puisque pour l'instant, elles n'ont pas surgi.
À suivre dans le grand face-à-face, le débat avec Sabine Procoris.
France Inter, le grand face-à-face, le débat.
Que reste-t-il de la révolution MeToo? Y a-t-il eu un avant et un après dans l'histoire du féminisme contemporain? C'était il y a 4 ans, le début d'un mouvement qui est devenu planétaire. L'affaire Weinstein secouait les États-Unis et avec des ondes de répercussions qui dépassaient très largement les frontières américaines. Le 15 octobre 2017, c'était donc il y a 4 ans, jour pour jour ou quasiment, l'actrice Alyssa Milano lançait le hashtag MeToo. Hashtag immédiatement relayé partout dans le monde, moment déterminant pour beaucoup, où s'exprimer à travers hashtag MeToo la solidarité envers les victimes de violences ou d'agressions sexuelles, où s'exprimer aussi l'importance de la révolte, l'espoir d'un changement profond de l'ordre social. Et c'est pourtant contre cette idée, contre cette analyse, que la philosophe et psychanalyste Sabine Procoris publie Le Mirage MeToo aux éditions du Cherche Midi. C'est un livre qui prétend dénoncer non seulement les illusions, les leurs, mais aussi une manière de terrorisme intellectuel, puisque ce sont ces mots du mouvement MeToo. Bonjour Sabine Procoris.
Bonjour, merci de votre invitation.
Et bienvenue. Nous voulions justement parler avec vous de ce livre qui va faire réagir, qui va susciter le débat. On va non pas commencer par la liste de vos ennemis, elle est longue, en tout cas vos ennemis, je le dis en souriant, oui, mais des personnes qui incarnent selon vous cette illusion et sa part d'Adèle Haenel. On peut citer des journalistes de Mediapart, Marine Turchi et Louis Plenel, on y reviendra tout à l'heure, mais d'abord en fait j'aimerais juste vous demander tout simplement, vous qui avez beaucoup travaillé sur le féminisme justement, qui vous revendiquez féministe.
Oui.
Vous avez écrit contre les études de genre, par exemple, et contre la chef de file des études de genre, à savoir Judith Butler. Mais pourquoi aujourd'hui qualifier le mouvement MeToo, je vous cite, de terrorisme, de manière de terrorisme intellectuel? Est-ce que c'est pas allé très loin?
Oui, c'est vrai que c'est allé très loin, mais pas plus loin que le mouvement MeToo lui-même, me semble-t-il. Pourquoi je le qualifie de cette façon? Déjà, pour des raisons assez claires, qui est que dès qu'on ouvre la bouche, enfin c'est ce que j'ai expérimenté depuis un certain temps, et puis ça n'a pas été tellement simple de pouvoir faire éditer ce livre, je remercie les éditions du Cherche Midi de le publier. Dès qu'on ose critiquer, en fait, même avoir des réserves sur le mouvement MeToo, on est tout de suite catégorisé comme ennemi des féministes, ennemi des femmes. Donc, moi, je trouve que c'est important de pouvoir débattre. Or, vous souvenez des réactions à la Tribune de Neuve, sur laquelle j'avais d'ailleurs un certain nombre de réserves, sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais j'avais des réserves sur cette tribune. Néanmoins,
Catherine Deneuve, qui, oui, la tribune, Le Monde et avec
voilà,
d'autres...
Le Monde avait publié une tribune sous le titre qui me semblait assez problématique. C'est une phrase extraite de la tribune. Quelque chose autour de la liberté, nous défendons une liberté d'importuner, etc. Déjà, c'est un peu questionnable cette idée-là, mais peu importe, cette tribune avait le mérite, si vous voulez, de faire entendre des voix différentes de femmes. Or, la violence extrême qui s'est déchaînée, notamment sur les réseaux sociaux, mais pas seulement, d'excommunication en réalité, de ces femmes, de la part d'autres femmes, m'a semblé quand même le signe qu'on était dans un univers, non pas de débat, mais de mots d'ordre.
Mais donc, en l'occurrence, voilà, vous êtes là pour débattre et c'est intéressant de vous entendre, parce que c'est vrai que c'est une parole qui détonne, disons, mais j'aimerais juste savoir pourquoi employer le mot violence là aussi, puisque les mots ont un sens. C'est qu'en l'occurrence, le mouvement MeToo est né justement contre les violences physiques, essentiellement l'emprise psychologique exercée par essentiellement des hommes sur des femmes. La violence, elle est là davantage que ce qui s'est déchaîné ensuite sur les réseaux.
Alors, la question, c'est que ce qui m'a paru très violent, d'abord, je sais pas, vous avez suivi peut-être un peu les manifestations MeToo, les slogans des colleuses. Il me semblait que la violence, quand vous envoyez un slogan, par exemple, le kérosène, c'est pas pour les avions, mais c'est pour les violeurs. Ou s'agissant de Polanski, séparer l'homme de l'œuvre, oui, mais à la hache. Bon, des choses comme ça, les manifestations qui ont obtenu la tête d'un certain nombre de gens, des intellectuels tout à fait respectables par ailleurs, qui vous expliquent qu'il faut que des têtes tombent et que, en regardant un film comme J'accuse ou comme Tess, on a la démonstration par ces films que Polanski est un violeur pédophile. Vous vous dites que là, il y a quelque chose qui est pas seulement violent, si vous voulez, mais peu articulé, on va dire.
Natacha, Gilles, Natacha.
Alors, peut-être pour préciser, on peut reprendre un petit peu le fil de oui. votre raisonnement, puisque vous partez, c'est le début du livre, de la séquence vidéo oui. tournée par Mediapart oui. avec Adèle Haenel. Adèle Haenel accusant Christophe Ruggia de violence pédophile quand elle avait entre 12 et 14 ans. Et à partir de là, donc, vous construisez un raisonnement qui s'appuie sur les mots employés tout au long de cette interview et ensuite dans les différents débats sur MeToo. Et vous expliquez que, par exemple, ce qui apparaît quand on analyse vraiment ce vocabulaire, c'est non pas le souci de la vérité, la question de savoir s'il y a culpabilité ou pas, mais ce qui est le terme de la journaliste, par exemple Marine Turchi ou d'autres, voilà, de faire émerger de nouveaux récits. C'est-à-dire, en fait, de l'idée qu'il n'y aurait pas le réel, la vérité, mais qu'il y aurait des récits qu'il faudrait déconstruire pour d'autres récits. Et c'est ça que vous pointez, si j'ai bien compris, oui. en expliquant qu'il y a là une démarche idéologique. Et par exemple, vous dites qu'on n'a plus l'accusation par des plaignantes, mais la dénonciation de faits par des victimes, ce qui n'est pas du tout non. la même chose.
Alors d'ailleurs, donc, la substitution de ce terme de victime qui est rentré tout à fait dans les habitudes au terme de plaignant. Marie Dosé, dans son petit livre qui vient de paraître sur la prescription, qui est tout à fait intéressant, fait remarquer d'ailleurs que même le Conseil d'État a validé l'usage ordinaire du terme de victime, tout en disant quand même que tant qu'un jugement n'est pas prononcé, l'accusé ne peut pas être considéré comme coupable. N'empêche que dès lors qu'on dit victime, ça présuppose que l'accusé est coupable.
Non, mais dans
forcément.
Le vocabulaire courant, on peut se dire victime.
Ah oui, mais comme vous dites, on se dit. Ce sont des victimes.
Oui, c'est un témoignage. En l'occurrence, voilà. Adèle Haenel a témoigné.
Alors, revenons sur la séquence. Pourquoi est-ce que je suis partie là-dessus? D'abord parce que, bon, j'ai mis 2 ans à commencer à vraiment réfléchir, continuer à réfléchir sur ce sujet. Et si j'ai pris comme point de départ de mon livre, le sous-titre du livre d'ailleurs, c'est « Réflexions à partir du cas français », ce qui ne veut pas dire sur le cas français exclusivement, mais à partir de du cas français qui s'est déployé à partir de ce qui me semble être un tournant, qui est la séquence Mediapart Adèle Haenel, parce qu'après il y a eu d'autres choses qui ont suivi, eh bien il me semble qu'on peut analyser en effet les logiques intellectuelles à l'œuvre dans ce mouvement, je dirais presque à l'insu du plein gré de ses adhérentes.
Et on va y venir, voilà. Parce que c'est vrai que ça va très loin.
Alors, voilà. Donc, cette question des récits, c'est très intéressant parce que quand vous... D'ailleurs, j'ai, pour pouvoir analyser cette séquence, d'abord, la première chose qui m'a frappée, c'est à quel point la France entière s'est trouvée comme hypnotisée par la séquence Adèle Haenel, alors que moi, je l'avais pas vue le soir même. Je l'ai regardée 2-3 jours après et j'étais très surprise parce que... je voyais pas qu'est-ce qui pouvait produire cet effet d'hypnose collective, enfin. Tout le monde, y compris Brigitte Macron, quel courage, tout le monde. Puis je me suis dit, il y a quand même, alors Christophe Ruggia, d'ailleurs je vous ai donné une information intéressante, les avocats de Christophe Ruggia, j'ai vu ça dans le Parisien hier, viennent d'obtenir une première victoire, c'est-à-dire que la garde à vue, vous savez qu'il a fait l'objet d'une garde à vue de 48 heures, etc., et également, avant tout jugement, avant toute expertise, d'une obligation de soins psychiatriques pour délinquants sexuels. Donc c'était jugé avant même, enfin d'un jugement, quoi. Et ils ont obtenu l'annulation, comme mesure illégale, de sa garde à vue, mais c'est très... Et il y avait en plus une expertise psychiatrique sérieuse, indiquant qu'il n'avait absolument pas un profil de pédophile. Alors, les personnes de la partie adverse, les avocats, les conseils de Adèle Haenel, on dit c'est que de la procédure. Ah ben oui, mais la procédure, je veux dire, si on veut juger en violant la loi, il y a quand même un problème. C'est-à-dire, comme me disait hier dans un autre débat Daniel Borillo, on brandit le code pénal toutes les 5 minutes, mais on refuse les règles de la procédure pénale. Ça ne va pas.
Gilles Finkelstein.
Je voudrais revenir sur le bilan que vous faites, le bilan global que vous faites de MeToo et sur lequel je suis, je dois dire, circonspect. Parce que je peux vous suivre sur l'idée que il est insatisfaisant que les réseaux sociaux se substituent au prétoire. Je peux vous suivre aussi, évidemment, sur un certain nombre de dérives, d'errements qui se sont produits et d'intolérance dans ce mouvement. Mais là où je ne vous suis plus, c'est pourquoi une partie, même peut-être une petite partie, recouvre le tout. Pourquoi, comme le disent les économistes, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Et pourquoi vous sous-estimez, je crois, l'ampleur de l'onde de choc qu'a provoqué ce mouvement qui n'a pas été, je crois, un mirage, qui n'a pas non plus été un miracle, mais qui a été un accélérateur de prise de conscience. Je crois que c'est vrai pour les femmes, mais je crois que c'est vrai aussi pour les hommes. Et vous l'évoquez peu. Vous parlez à un moment de panique sexuelle, mais je crois que ça a été aussi, y compris pour beaucoup d'hommes, un moment de prise de conscience. De ce que vivaient les femmes, de ce qu'était leur propre attitude. Et de ce point de vue-là, je crois que ça a eu des effets d'ébranlement qui ont été profonds et positifs.
Alors, je vais vous répondre, et je pense que pour vous répondre, je vais repasser par la question sur les récits, justement. Moi, au début, c'est ce que je pensais. J'avais pas j'étais un peu embarrassée par MeToo, parce que bien évidemment que les atteintes à une femme sont des atteintes inacceptables. Et comme le dit très bien Catherine Kinsler dans une recension qu'elle a récemment faite de ce livre, quand une femme dans notre pays est atteinte, c'est toute la nation qui est atteinte. Pas seulement les femmes, mais la nation entière. C'est-à-dire en tant que, pas seulement en tant que femme, mais en tant que sujet humain et citoyen. Bien. Donc, j'entends tout à fait ce que vous me dites, c'est-à-dire l'idée qui est là, ce qu'on pense habituellement, en effet, et que j'ai inversé en réalité, qui est que MeToo est une révolution magnifique, formidable, évidemment avec des dégâts collatéraux, des œufs qui se cassent et ainsi de suite. Moi, je dis, finalement, à partir de mon travail d'enquête et d'analyse, et aussi à partir de mon expérience de psychanalyste, je dois vous dire. Ça, j'en dirais peut-être un tout petit mot sans révéler quoi que ce soit.
Mais pour vous, ça n'est pas un problème de dérive d'un mouvement.
Non, je pense que c'est l'inverse.
C'est l'inverse.
C'est-à-dire, je pense que c'est un mouvement structurellement vicié et que ça a à voir avec cette histoire des récits. C'est-à-dire, avec un double projet, avec d'abord un projet qui est de refabriquer un nouveau monde qui serait le meilleur des mondes féministes, et puis un rapport à la question des faits et de la vérité qui est quand même animé par des logiques véritablement frauduleuse. Et ça, c'est pour ça que je parle d'ailleurs je prends l'exemple du cas Polanski, mais bon, on y reviendra peut-être. Donc, il y a déjà ce rapport à la question des faits et de la vérité qui est très perturbé, et la justice est très, très ébranlée par tout ça. Et d'autre part, je pense que, si vous voulez, créer un nouveau monde, c'est quand même un problème. Et d'autre part, je pense qu'il y a une illusion de libération. Je pense pas que ce soit une libération de la parole. Je pense que c'est un enrégimentement de la parole. Dans une bannière, ça mange pas.
Mais vous ne répondez pas, Gilles, sur la prise de conscience collective et même pour beaucoup d'hommes de l'ampleur des violences et des agressions sexuelles.
Justement, le problème, c'est qu'il faut distinguer les différentes violences. Vous voyez? Parce que quand on dit l'ampleur des violences et des agressions, on nous donne des chiffres. Seulement, le problème, c'est que tout ça est pris est considéré à partir d'un postulat qui serait que nous sommes dans ce qu'on appelle la culture du viol.
Vous critiquez l'expression,
oui,
d'ailleurs.
Oui, d'ailleurs, la personne qui a écrit ce livre sur la culture du viol donne comme argument pour valider, si vous voulez, sa notion, j'appelle pas ça vraiment un concept, c'est que tous les médias l'ont repris. Ça me semble un petit peu court, hein, comme justification d'un argument. Mais moi, ce que je constate, si vous voulez, c'est que avec l'idée de continuum des violences sexuelles et sexistes, on va mettre, si vous voulez, non pas exactement sur le même plan, mais gouvernés par la même logique, des actes qui sont totalement différents. Alors, pour prendre un exemple très simple, quand on dit, comme vous connaissez l'expression, qui vole un œuf, vole un bœuf. Évidemment, un œuf et un bœuf, c'est pas pareil, mais l'acte de voler est le même. Tandis que un regard que vous interprétez comme un regard salace dans le métro, ou y compris un geste déplacé et un viol, c'est pas pareil. Et moi, je peux vous dire, j'ai des personnes dans mon cabinet qui ont pu subir des atteintes très graves. Et une femme qui a été violée, je peux vous dire que c'est assez raide pour elle d'entendre, de lire dans un grand quotidien du soir qu'une autre, Madame Sandra Müller, s'en balance ton porc, etc., à qui on a tenu un propos absolument graveleux. C'est indéniable. Le type s'est excusé le lendemain, sa vie a été pourrie par la suite. Eh bien, elle a été gravement traumatisée et qu'elle est tombée dans une faille spatio-temporelle. C'est-à-dire, à partir du moment où on ne distingue plus les actes, vous voyez, c'est pas le même acte.
Natacha Polony.
Vous évoquez d'ailleurs, là aussi, on en est toujours à la question du vocabulaire et de ce qu'il révèle, ce que vous appelez la choatisation des victimes, c'est-à-dire que vous pointez l'usage d'une espèce de vocabulaire parallèle entre les violences sexuelles et la Shoah. Par exemple, le fait que certains théoriciens parlent de génocide individuel, d'autres parlent de survivantes, comme s'il y avait le besoin pour faire comprendre l'ampleur, en effet, d'un problème qui existe. Et il est indéniable qu'il y a des violences faites aux femmes et qu'elles sont et qu'elles ont pendant longtemps pas été combattues. Mais pour faire comprendre ce problème, on a besoin de se référer à la Shoah. Alors, pourquoi ?
Alors, bon, ça, c'est une question très importante. Je vais juste terminer sur ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en réalité, les femmes qui ont vraiment subi des choses, l'effet que je vois, moi, de MeToo, c'est que ça les enferme dans un destin ravagé. Et les autres qui n'ont pas vraiment subi grand-chose ou qui ont, ils s'imaginent être victimes, et c'est pas vraiment très émancipateur. Alors, pour revenir à cette histoire de Shoahisation, Alain Finkielkraut avait, il y a quelques années, je ne le savais pas quand j'ai écrit, puis il a utilisé à propos d'une accusation posthume.
Une expression que je trouve scandaleuse, il a parlé de Shoahisation de la main au cul. Dans un article publié par le magazine Closer.
Mais moi aussi, j'ai un chapitre qui s'appelle comme ça.
Ouais.
Parce que, pourquoi?
Enfin,
parce
vous dites choatisation des atteintes sexuelles.
C'est pas très différent.
Non, mais.
C'est la même idée. Bon, mais quand même, l'histoire, qu'est-ce qu'il y a?
On ne comprend pas la référence, la comparaison.
Mais parce que.
Mais c'est pas lui qui l'a fait.
C'est pas lui qui l'a fait.
Ah, c'est lui qui l'a fait.
Mais oui, mais parce qu'il décrit une situation où Elie Wiesel, post-mortem, de façon posthume en plus, donc vous pouvez pas beaucoup vous défendre quand vous êtes mort, même si on peut vouloir condamner des gens de façon posthume, et Marie Dosé en parle, a accusé Elie Wiesel, rescapé, comme chacun sait, de lui avoir, lors d'une séance photo, mis la main à la taille et que la main serait glissée légèrement plus bas et qu'elle a été, du coup, elle le désigne comme son bourreau. Comme son bourreau. Donc, excusez-moi, mais là, il y a un drôle de retournement. Et quant à ce que moi, je reprends cette expression-là, en effet, je l'assume, parce qu'en fait, c'est un des déclencheurs, d'ailleurs, de l'écriture de ce livre, c'est que lorsqu'il y a eu, effectivement, quand j'ai étudié la séquence NL, je l'ai étudiée sur une transcription, ce qui m'a permis de voir, d'ailleurs, que sur les faits, il était très peu question de grand-chose, et d'une façon assez étrange, mais qu'on ne parlait que de peuples intersectionnels, allez savoir le rapport avec ça, avec les violences sexuelles. Bien. Ensuite, le mot de survivante est apparu sans arrêt. Je venais de lire un livre, très très beau livre, de témoignages de femmes syriennes, victimes des prisons de Bachar el-Assad ou de Daesh, et vous imaginez bien ce que ces femmes ont subi. Le mot victime n'apparaît pas une seule fois. Chercher l'erreur. Et donc, par la suite...
Notre surprise.
Moi aussi, je suis surprise, parce qu'en réalité...
De croiser les travaux de Raoul Hilberg sur la destruction des Juifs d'Europe, de croiser Shoah de Claude Lanzmann dans un livre sur MeToo.
C'est pas moi qui le fais.
Enfin,
ce n'est pas moi qui le fais. Non, je suis désolée. J'analyse un article d'un universitaire dont j'analyse le texte, qui... 3 semaines après Adèle Haenel, nous explique qu'Adèle Haenel égale Primo Levi.
Oui.
Et que son témoignage est l'équivalent de celui des rescapés des crimes de masse. C'est pas moi qui le dis.
Mais pourquoi prendre au sérieux un propos aussi délirant?
Mais je le prends pas. Bah parce que je le prends au sérieux pour plusieurs raisons. Il est délirant. N'empêche que, vous avez vu, vous faites beaucoup d'honneur de parler de théoriciens sur ce monsieur qui a écrit Le viol comme génocide individuel, qui nous explique que le viol est un équivalent de la Shoah parce que la Shoah serait un crime sans cadavre, ce qui est une curieuse conception de la Shoah, entre nous, bien. Tout y est, le matricule, etc., etc. Donc là, ça me semble très grave, mais vous voyez, ça circule, parce que Adrien Taquet, par exemple...
Adrien Taquet, il faut préciser que c'est le secrétaire d'État à la protection de l'enfance.
Il a repris dans un tweet l'expression de ce monsieur qui a écrit sur le viol comme génocide individuel. D'ailleurs, on a vu des pancartes dans les manifestations féministes, hein, il reprend ça, il reprend pas le génocide individuel, il dit c'est un crime sans cadavre. Bon, donc si vous voulez, c'est quelque chose qui se répand à partir d'une banalisation de la Shoah, parce que la perversion intellectuelle.
Mais ce n'est pas parce que repris dans un tweet une idée totalement aberrante
qu'on doit en faire. Mais c'est quand même quelqu'un, c'est pas n'importe qui, c'est un secrétaire d'État du gouvernement quand même.
Il faut malgré tout, enfin, c'est pas qui dit la vérité de ce mouvement MeToo quand même.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est le révélateur d'un certain type de rapport à la question des faits et de la vérité et des récits. Pourquoi ? Je me suis intéressée à l'usage du cas Polanski, qui a un rapport avec cette question de shoahisation, et où les choses s'inversent. Puisque dans les dernières cérémonies des Césars, Polanski égale Hitler. Celui d'avant, Polanski doit être gazé, ça c'était dehors. Hein. Dans mon quartier, il y avait des pochoirs au sol, Polanski boit nos règles, enfin bon, etc. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que ça vient faire là ? Ça n'a aucun rapport. Donc je me suis dit, ça a à voir avec... quelque chose de l'antisémitisme contemporain que Carlo Ginzburg a très bien analysé comme ayant trait à quelque chose, allez, qu'on appellera très très vite postmoderne, sur le fait que les récits priment sur les faits.
Alors, je voudrais revenir une nouvelle fois, non pas sur une partie, mais sur ce que je considère être le tout, c'est-à-dire sur le mouvement lui-même et sur la parole des femmes. Vous avez évoqué tout à l'heure la question de vous interroger sur libération ou pas libération de la parole des femmes avec ce mouvement. En gros, ce que vous dites, c'est d'un point de vue plutôt psychanalytique qu'on nie la singularité de la parole et on nie la hiérarchie des actes avec ce mouvement. Est-ce que, d'un point de vue politique, c'est pas aussi une libération au sens où on voit pour les femmes qu'elles ne sont pas seules, que c'est un mouvement collectif, que c'est un espoir de changement? Et sur la parole des femmes, vous avez dit tout à l'heure, hein, le débat entre victimes et plaignantes, vous contestez dans votre livre l'usage de cette phrase « victime, on vous croit » qui a été reprise par le président de la République lui-même. Est-ce que ce n'est pas aussi le symptôme du fait qu'il y ait si peu d'écoute, qu'il y ait autant de doutes? Vous avez vu cette semaine même le succès du hashtag double peine des femmes qui allaient porter plainte dans les commissariats, qui considéraient que le dépôt de plainte par lui-même était une première peine. Et donc, est-ce que quand on dit victime, on vous croit, ça ne veut pas dire on prend au sérieux ce que vous avez à dire, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais on prend au sérieux ce que vous avez à dire, et que c'est très important quand on voit l'écart absolument considérable entre le nombre d'agressions et le nombre de plaintes, le nombre de plaintes et le nombre de jugements et le nombre de condamnations.
Mais moi je suis désolée, mais je crois que les mots ont un sens. Pourquoi on ne dit pas victime, on vous écoute? C'est pas pareil. C'est pas parce qu'on écoute qu'on doit croire, pas plus qu'on doit croire d'ailleurs celui qui dit « je n'ai rien fait ». C'est-à-dire, si on est dans un état de droit, et le président de la République est garant de l'état de droit, on ne peut pas formuler les choses de cette façon, victime, ce qui veut dire qu'elles sont victimes, on n'en sait rien. Vous savez, rappelez-vous l'affaire Oudoutreau, par exemple. On l'a oublié, hein. On les a beaucoup crus, les enfants. Vous vous rappelez la catastrophe judiciaire d'Outreau. Loïc Sécher, qui vient de mourir, là, 7 ans de prison pour une accusation mensongère. C'est-à-dire, oui, bien entendu qu'il y a des... C'est important que les femmes, et pas que les femmes d'ailleurs, que les plaignants soient accueillis et écoutés correctement dans les commissariats, pas a priori considérés comme affabulateurs. Mais il est très important qu'on ne parte pas de l'idée que tout le monde dit la vérité. Dans un état de droit, je suis désolée, enfin j'y crois encore, hein, eh bien il me semble qu'on accueille, on écoute, on prend au sérieux. Il y a bien sûr des progrès à faire qui ont été faits.
Beaucoup à faire encore.
Peut-être, mais je veux dire, il faut aussi faire attention. C'est normal qu'il y ait une enquête. Vous voyez, il y a mais des avocates. Sûr. Oui, non, mais certaines femmes considèrent que non. Je discute avec des avocates qui défendent des femmes plaignantes et des gens qui sont accusés, à tort ou pas. Elles me disent, les femmes refusent d'aller aux confrontations parce que c'est traumatique. Alors on leur dit... On est absolument envahi par une espèce de vulgate sur le traumatisme. C'est-à-dire, oui, la procédure judiciaire, elle est difficile pour tout le monde. C'est difficile. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, certaines femmes, notamment dans les histoires d'inceste, certaines victimes, préfèrent ne pas porter plainte. Mais bon, ça, c'est encore une autre question. Mais je ne pense pas du tout, je ne suis pas d'accord qu'on puisse brandir un slogan comme « victime, on vous croit ». Pourquoi on ne dit pas « victime, on vous écoute » ? Plaignante, on vous écoute, plutôt. Plaignante. Vous voyez, moi-même, je suis prise là-dedans.
Il y a un autre terme qui apparaît dans votre livre et qui, là aussi, s'est peu à peu imposé dans le débat public, c'est le terme d'emprise. Et vous aviez publié, il y a déjà quelques mois, un texte dans Libération sur cette question-là, sur la question de l'emprise, parce qu'elle est complexe. Et j'avoue, pour ma part, avoir été assez perplexe en voyant surgir ce terme, dans la mesure où j'avais l'impression que ça allait toujours dans le même sens, c'est-à-dire une femme victime de l'emprise d'un homme, comme si les femmes n'étaient pas des individus majeurs et que finalement elles étaient moins douées de libre arbitre que les autres. Alors, je pense que l'emprise, hélas, est un universel de l'humanité et que les relations d'emprise sont extrêmement nombreuses et dans tous les sens. En quoi ça change la perception juridique des choses et en quoi ça pose problème selon vous ?
Sabine Procoris.
Si vous voulez, bien évidemment que l'emprise, ça existe. Et vous avez entièrement raison de dire qu'est-ce que c'est que cette façon. Ça, c'est le résultat de l'assignation à une identité victime, que les femmes n'auraient pas de libre arbitre. Mais l'emprise, c'est pas juste une personne réduite à une chose et à un bourreau. L'emprise, c'est une relation extrêmement complexe avec deux pôles actifs qui ne sont pas symétriques. Et ça peut se retourner. C'est-à-dire que l'emprise, bien entendu, ça existe. Et d'ailleurs, à différents degrés. Dès qu'on est amoureux, effectivement, on est dans une relation d'emprise, parce qu'on est captivé, si vous voulez. Un bourreau-victime, c'est quoi? C'est bourreau-victime, et la victime ne peut strictement rien faire. Dans l'emprise, il y a quelque chose d'une relation qui, on nous sert l'emprise quand on ne sait pas quoi. C'est un joker, en fait. Judiciairement, que ce soit dans l'affaire Georges Tron, etc. Vous me parlez de Vanessa Springora dans son livre. C'est très étonnant parce qu'il est très contradictoire, son livre. C'est-à-dire, d'un côté, elle nous dit j'étais totalement amoureuse, et quand vous lisez le livre correspondant, celui de Mads Neff, La prunelle de mes yeux, ça correspond. Ça correspond. Sauf que, à un moment donné, parce qu'elle est en quelque sorte comme biberonnée aux théories de la psychiatre Muriel Salmona, elle nous explique, mais en fait c'était une emprise, j'étais pas vraiment amoureuse. Ah bah oui, mais quoi? Je veux dire, c'est pas un enfant, hein. 14-15 ans, c'est pas un enfant, excusez-moi. Bon, donc l'emprise, si vous voulez, c'est une relation humaine dont il est addictive. C'est une relation humaine addictive dont il est très difficile de se défaire. Et à partir du moment où l'un des partenaires de l'emprise veut sortir de la relation, l'autre forcément lui court après. Parce que l'autre n'est pas juste de la cocaïne, si vous voulez. Le meilleur exemple d'emprise, d'analyse de l'emprise qu'on puisse avoir, c'est le film de Polanski, Lune de Fiel, à partir du roman
que vous citez dans votre livre.
Disons peut-être que la différence que moi je ferais, voilà, c'est que Vanessa Springora a 14 ans et que s'il y a une majorité et une minorité, c'est justement parce qu'on considère que les mineurs peuvent être sous emprise, mais qu'à partir du moment où on est majeur, en revanche, là, ça se pose différemment. Moi, pour ma part, je fais la différence entre mineur et majeur.
Une dernière question. Votre livre est une pièce.
Bien sûr que c'est un délit, mais la question de l'emprise, elle n'est pas plus importante là que dans d'autres relations. Hein.
Oui, votre livre est une pièce supplémentaire. D'un débat, d'un combat entre les féministes universalistes et les féministes radicales, les néo-féministes. Là où j'ai une gêne, c'est que moi qui me reconnais dans ce courant de féminisme universaliste, je finis par avoir le sentiment que son seul combat est contre les féministes radicales. C'est quoi l'agenda des féministes? C'est alors que il y a Éric Zemmour qui tient un discours réactionnaire comme on l'a pas vu depuis si longtemps, qu'il y a l'Afghanistan. C'est quoi l'agenda des féministes universalistes, l'agenda positif?
Sabine Procoris.
Le problème c'est que les féministes dites intersectionnelles, voyez, prenons un exemple, la question de l'avortement. Pourquoi n'y a-t-il pas eu un hashtag mondial je veux avoir le droit d'avorter? Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis. Et quand le juge Kavanaugh a été nommé par Trump, ce qui m'a frappé, c'est que les féministes, c'était juste le début de MeToo, elles étaient peut-être enivrées par MeToo, au lieu de s'insurger contre le fait qu'on voulait le nommer parce qu'il était opposant, anti-IVG, et que du coup la Cour suprême serait entièrement phagocytée par les conservateurs anti-IVG, ils ont ressorti une frasque sexuelle de teenager éméché 40 ans plus tôt, qui était certes paragoutante, mais c'était peut-être pas l'urgence, puisque vous parlez d'agenda. Bien. Quand vous voyez que la vulgate intersectionnelle procède de la conception de la domination issue de Butler, quand même Butler, il y a 20 ans, enfin dans un de ses livres, Judith Butler écrivait que les femmes afghanes qui, sous le régime taliban, voulaient retirer leur burqa, c'était des complices du préjugé culturel occidental. Donc pour moi, les combats féministes aujourd'hui sont jamais achevés. Bien sûr, il y a les violences sexuelles. Faut pas oublier non plus, c'est pas l'an zéro du féminisme, MeToo. La criminalisation du viol, ça vient des années 70 quand même. Hein? Donc je pense que l'agenda, il est toujours le même, c'est-à-dire il y a des priorités. Et quant à Zemmour, je pense que ce sont tous ces mouvements-là, parce que MeToo fait partie d'une mouvance plus vaste, intersectionnelle, qui booste absolument des personnages aussi réactionnaires, mais machistes et virilistes que Éric Zemmour.
Ce sera la conclusion. Merci Sabine Procoris.
Merci
la conclusion de notre entretien et de notre débat. Mais le début donc de ce pavé que vous jetez dans la mare, le Mirage MeToo, qui est donc publié aux éditions du Cherche Midi. Merci d'avoir été l'invité du grand face-à-face. Merci. Et chers auditeurs, je vous annonce que la semaine prochaine, ce sera un grand face-à-face XXL de 2 heures qui sera enregistré à Tours le vendredi 22 octobre, donc vendredi prochain de 17h à 19h depuis l'hôtel de ville, et on vous y attend nombreux. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission, à la réalisation Marie Mérier, à la technique Gilles Gaillard. À suivre sur Inter, le journal.